16. Déposition de M. Claude Bolton, 13 juillet, 16h30. Interrogé par l'inspecteur Ralph Anderson. Inspecteur Anderson. Eh bien, Claude, ça doit être chouette pour vous de vous retrouver ici sans rien avoir à vous reprocher. Ça change ? Bolton. En fait, oui. Comme de voyager à l'avant d'une voiture de police plutôt qu'à l'arrière. 130 à l'heure pendant presque tout le trajet depuis Cap City. Gyrophare, sirène, tout le tintouin. Vous avez raison, c'est chouette. Inspecteur Anderson. Que faisiez-vous à Cap City ? Bolton. Du tourisme. Je me suis offert 2 soirs de congé. J'ai pas le droit ? C'est interdit par la loi ? Inspecteur Anderson. J'ai cru comprendre que vous faisiez du tourisme avec Carla Jepson, alias Fée Espiègle, de son nom de scène. Bolton. Vous le savez bien, puisqu'elle est revenue avec moi dans la voiture de patrouille. D'ailleurs, elle a bien aimé la balade, elle aussi. Elle a trouvé ça vachement mieux que le car. Inspecteur Anderson. Vous avez surtout visité la chambre 509 du Western Vista Motel sur la Highway 40, hein ? Bolton. Ah ! On n'est pas resté enfermé tout le temps. On est allé dîner au Bonanza, 2 fois. On bouffe super bien là-bas, et pour pas cher. Et Carla voulait voir le centre commercial, alors on y a passé un petit moment. Ils ont un mur d'escalade. Je me le suis fait, cet enfoiré. Inspecteur Anderson. J'en suis sûr. Saviez-vous qu'un jeune garçon avait été assassiné, ici, à Flint City ? Bolton. J'en ai vaguement entendu parler aux infos. Hé, vous croyez quand même pas que je suis mêlé à cette histoire, si ? Inspecteur Anderson. Non, mais vous possédez peut-être des informations sur le coupable. Bolton. Comment est-ce que... Inspecteur Anderson. Vous travaillez comme videur au Gentleman Please, n'est-ce pas ? Bolton. J'assure la sécurité. On n'emploie pas le terme videur. Le Gentleman Please est un établissement de haut standing. Inspecteur Anderson. Admettons. Je crois savoir que vous avez travaillé mardi soir. Vous n'avez quitté Flint City que mercredi après-midi. Bolton. C'est Tony Ross qui vous a raconté qu'on était parti à Cap City, Carla et moi ? Inspecteur Anderson. Oui. Bolton. On a une ristourne au motel parce qu'il appartient à l'oncle de Tony. Lui aussi, il bossait mardi soir. C'est là que je lui ai demandé d'appeler son oncle. On se serre les coudes, Tony et moi. On a surveillé l'entrée du club de 4 à 8. Et ensuite, la fosse jusqu'à minuit. La fosse, c'est devant la scène, là où s'assoient les messieurs. Inspecteur Anderson. Toujours d'après M. Ross, sur le coup de 20h30, vous avez vu quelqu'un que vous connaissez. Bolton. Ah, vous parlez de Coach T ? Eh, vous pensez quand même pas que c'est lui qui a tué ce gamin, hein ? Coach T, c'est un gars tout ce qu'il y a de plus clean. Il a entraîné les neveux à Tony. J'étais étonné de le voir débarquer chez nous, mais pas choqué. Vous pouvez pas imaginer les gens qu'on voit assis aux premières loges, des avocats et même des hommes d'église. Mais c'est comme à Vegas. Tout ce qui se passe aux gents reste au... Inspecteur Anderson. Oui, je suis sûr que vous êtes aussi discret qu'un prêtre dans son confessionnal. Bolton. Vous pouvez rire, c'est la vérité. Discrétion obligatoire si vous voulez fidéliser la clientèle. Inspecteur Anderson. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Claude. Quand vous parlez de Coach T, vous parlez de Terry Maitland. Bolton. Bien sûr. Inspecteur Anderson. Racontez-moi dans quelles circonstances vous l'avez vu ce soir-là. Bolton. On passe pas tout notre temps dans la fosse. Ce boulot, ça se limite pas à ça. On circule dans la salle. On vérifie que les clients ont pas les mains baladeuses. Et on arrête les bagarres avant que ça dégénère. Parfois, quand les types sont excités, ils deviennent agressifs. C'est un truc qu'il faut savoir dans ce métier. Mais les problèmes, ça arrive pas seulement dans la fosse. C'est plus fréquent, voilà tout. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un de nous deux qui reste là. L'autre, il patrouille autour du bar, dans l'arrière-salle, là où il y a des jeux vidéo et un billard à pièces, dans les cabines privées et aussi dans les toilettes, évidemment. Si ça deal, c'est là que ça se passe. Quand on chope les mecs, on les fout dehors à coups de pompe dans le cul. Inspecteur Anderson. Dit l'homme qui a un casier judiciaire pour détention et vente de drogue. Bolton. Sauf votre respect, inspecteur. Vous êtes rude. Je suis clean depuis 6 ans. Je vais au narcotique anonyme. Vous voulez que je pisse dans un flacon ? Ce sera avec plaisir.
Inspecteur Anderson, ce ne sera pas nécessaire, et je vous félicite pour votre sevrage.
Bref, vous faisiez votre ronde sur le coup de 20h30.
Bolton, Exact. J'ai vérifié que tout se passait bien au bar. Ensuite, je suis allé pisser dans les toilettes pour hommes, au bout du couloir. Et c'est là que j'ai vu Coach T. Au moment où il raccrochait le téléphone. On a deux téléphones à pièces, mais il y en a un seul qui marche. Il...
Silence. Inspecteur Anderson. Claude, vous êtes toujours là?
Bolton. Je réfléchis. J'essaie de me souvenir. Il avait l'air bizarre. Abasourdi, vous voyez? Vous croyez vraiment qu'il a tué ce gamin? J'ai pensé que c'était parce qu'il venait pour la première fois dans un endroit où des jeunes femmes se déshabillent. Ça fait cet effet à certains. Ça les rend idiots. Ou alors, peut-être qu'il était défoncé. Je lui ai demandé, « Alors, coach, vous êtes content de votre équipe ?» Et là, il m'a regardé comme s'il m'avait jamais vu. Alors que j'ai assisté quasiment à tous les matchs de Stevie et de Stanley. Je lui ai même expliqué comment faire une double croisée. Et il trouvait que c'était trop compliqué pour des gosses. Pourtant, s'ils sont capables d'apprendre les divisions à trois chiffres, ils devraient pouvoir retenir ce genre de combinaison, non?
Inspecteur Anderson. Vous êtes certain qu'il s'agissait de Terence Maitland? Bolton.
Ah oui! Il m'a répondu que l'équipe se débrouillait bien, et il m'a expliqué qu'il était entré juste pour appeler un taxi. Comme quand on racontait qu'on achetait Playboy pour les articles si jamais notre femme le trouvait dans les chiottes. Mais j'ai pas relevé. Au Jens, le client a toujours raison, du moment qu'il essaie pas de ploter un nichon. Je lui ai répondu qu'il y avait peut-être déjà un ou deux taxis dehors. D'ailleurs, c'est aussi ce que lui avait dit le type au standard. Il m'a remercié et il est ressorti.
Inspecteur Anderson, comment était-il habillé?
Bolton. Chemise jaune et jean. Il avait une ceinture avec une tête de cheval et des baskets qui en jetaient. Je m'en souviens parce qu'elles avaient dû coûter un bras.
Inspecteur Anderson. Vous êtes le seul à l'avoir vu dans le club?
Bolton. Non! Deux gars l'ont salué d'un geste de la main au moment où il s'en allait. Je pourrais pas vous dire qui c'était, et vous risquez d'avoir du mal à les retrouver car il y a un tas de types qui veulent pas avouer qu'ils fréquentent des endroits comme le Jens. C'est comme ça. J'étais pas étonné que quelqu'un le reconnaisse car Terry est une sorte de vedette par ici. Il a même gagné une récompense il y a quelques années, j'ai lu ça dans le journal. Dans cette ville, tout le monde connaît tout le monde, ou presque, de vue au moins. Et tous ceux qui ont des fils qui s'intéressent au sport, on va dire, ils connaissent Coach T, par le baseball ou le football.
Inspecteur Anderson. Merci, Claude. Votre aide m'a été très utile.
Bolton. Il y a un autre truc qui me revient. C'est pas énorme, mais si c'est vraiment lui qui a tué ce gamin, ça fout les jetons.
Inspecteur Anderson. Continuez.
Bolton. Ça fait partie des choses qui arrivent, personne n'y peut rien. Au moment où il sortait pour voir s'il y avait un taxi dehors, je lui ai tendu la main en disant « J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les neveux à Tony, coach. C'est des braves gamins, mais un peu turbulents, peut-être à cause que leurs parents divorcent et tout ça. Vous leur avez donné un but autre que glander en ville. Je l'ai surpris, je crois, car il a eu un mouvement de recul avant de me serrer la main. Il a une sacrée poigne. Vous voyez cette petite cicatrice sur le dessus de ma main? C'est lui qui me l'a faite, avec l'ongle de son auriculaire. C'est quasiment cicatrisé maintenant. C'était juste une éraflure, mais pendant une seconde ou deux, ça m'a ramené à l'époque où je me droguais.
Inspecteur Anderson. Comment ça?
Bolton. Il y avait des types, des Hells Angels et des Devil's Disciples surtout, qui se laissaient pousser l'ongle du petit doigt. J'en ai vu qui les avaient aussi longs que les empereurs chinois dans le temps. Certains bikers allaient jusqu'à les décorer avec des décalcomanies, comme les nanas. Ils appelaient ça leur ongle à coke.
17. Après l'arrestation sur le terrain de baseball, impossible pour Ralph de jouer le rôle du gentil dans un scénario gentil flic, méchant flic. Alors il demeura appuyé contre le mur de la salle d'interrogatoire, en retrait, en simple spectateur. Il s'apprêtait à subir de nouveau le regard accusateur de Terry. Mais celui-ci lui adressa à peine un regard vide, avant de porter son attention à Bill Samuels, qui avait pris place sur une des trois chaises disposées de l'autre côté de la table. En observant le procureur, Ralph commença à comprendre comment cet homme avait pu monter si haut, si vite. Lorsqu'ils se tenaient derrière la glace sans teint l'un et l'autre, Samuels lui avait paru trop jeune pour ce poste. Maintenant, face au violeur et meurtrier de Frankie Peterson, on aurait dit un stagiaire dans un cabinet d'avocat qui a décroché par erreur un entretien avec un gros poisson. L'épi qui se dressait à l'arrière de sa tête renforçait le rôle dans lequel il s'était glissé. Le jeune gars inexpérimenté, bien content d'être là. « Vous pouvez tout me raconter », disaient ses yeux écarquillés,
intéressé, car je vous croirai. C'est la première fois que je joue dans la cour des grands et je n'y connais rien.
Bonjour, monsieur Maitland. Je travaille pour le bureau du procureur du comté.
Bonne introduction, pensa Ralph. C'est toi, le procureur du comté.
Vous perdez votre temps, répondit Terry. Je ne parlerai pas tant que mon avocat ne sera pas là. Par contre, je peux vous dire que je vois se profiler des poursuites pour arrestation arbitraire. Je comprends que vous soyez bouleversé. N'importe qui le serait à votre place. Mais peut-être pourrait-on d'ores et déjà arrondir les angles. Pouvez-vous juste me dire où vous étiez quand le petit Peterson a été assassiné? Ça s'est passé mardi dernier. Si vous étiez ailleurs?
Oui, mais j'ai l'intention d'en parler avec mon avocat d'abord. Il s'appelle Howard Gold. Quand il arrivera, je veux m'entretenir avec lui en privé. C'est mon droit, je suppose. Puisque je suis présumé innocent tant que je n'ai pas été reconnu coupable.
Belle contre-attaque, songea Ralph. Un criminel endurci n'aurait pas fait mieux.
En effet, confirma Samuels. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, inutile, monsieur Samuels. Vous ne m'avez pas amené ici parce que vous êtes un chic type.
Eh bien si,
répondit Samuels solennellement.
S'il s'agit d'un malentendu, je souhaite tout autant que vous rétablir la vérité.
Vous avez un épi derrière la tête, dit Terry. Peut-être que vous devriez faire quelque chose. Vous ressemblez à Alfalfa dans les vieilles comédies que je regardais, gamin.
Ralph se retint de rire, mais les commissures de sa bouche tressaillirent. Déstabilisé, Samuel se leva la main pour aplatir son épi. Celui-ci resta en place quelques secondes avant de se redresser.
Êtes-vous certain de ne pas vouloir éclaircir cette affaire?
Le procureur s'était penché en avant. Son air grave suggérait que Terry commettait une grave erreur.
Oui, certain.
Et je suis certain au sujet des poursuites.
Aucun dommage et intérêt ne pourra compenser ce que vous m'avez fait subir ce soir, bande de salopards. Pas seulement à moi, à ma femme et à mes filles aussi. Et j'ai bien l'intention d'obtenir le maximum.
Samuels demeura penché en avant. Ses yeux innocents et pleins d'espoir posés sur Terry. Puis il se leva. L'innocence s'envola.
Très bien. Vous pourrez vous entretenir avec votre avocat, monsieur Maitland. C'est votre droit. Pas d'enregistrement audio ni vidéo. On tirera même le rideau. Et si vous faites vite tous les deux, peut-être que l'on pourra régler ça dès ce soir. Je joue au golf de bonne heure demain matin.
Terry le regarda comme s'il avait mal entendu.
Au golf?
Oui, c'est un jeu qui consiste à envoyer une petite balle dans un trou. Je ne suis pas très doué au golf, mais il y a un autre jeu que je maîtrise, monsieur Maitland. Comme le très respecté monsieur Gold vous le dira, je peux vous garder ici 48 heures sans vous inculper. Mais ça ne sera pas aussi lent. Si on ne parvient pas à clarifier cette histoire, vous serez conduit devant le juge pour la lecture de l'acte d'accusation lundi matin à la première heure. D'ici là, la nouvelle de votre arrestation aura fait le tour de l'État et toute la presse sera là. Je suis sûr que les photographes sauront capter votre meilleur profil.
Convaincu d'avoir eu le dernier mot, Samuel se dirigea vers la porte, presque en se pavanant. Ralph devinait que la remarque sur l'épi lui était restée en travers de la gorge. Mais juste avant qu'il sorte, Terry lança.
« Hé, Ralph !»
Celui-ci se retourna. Terry semblait calme, ce qui, compte tenu des circonstances, était extraordinaire. Ou peut-être pas. Parfois, les meurtriers de sang-froid, les sociopathes, trouvaient cette sérénité après le choc initial, et ils se préparaient à une longue bataille. Ralph avait déjà vu ça.
« Je ne ferai aucune déclaration avant l'arrivée de Howie, mais j'aimerais vous dire une chose. »«
Allez-y !»
répondit Samuels à la place de Ralph, en essayant de masquer sa curiosité. Mais son visage se décomposa en entendant ce que Terry avait à dire.
Derek était le meilleur frappeur que j'ai jamais entraîné.
« Oh non, non !» dit Ralph. La fureur faisait trembler sa voix.
« Pas de ça ! Je ne veux pas entendre le nom de mon fils dans votre bouche, ni ce soir, ni jamais !»
Terry hocha la tête.
« Je peux le comprendre. » car je n'avais pas envie d'être arrêté devant ma femme et mes filles et un millier d'autres personnes, dont mes voisins. Alors, peu importe ce que vous voulez entendre ou pas, écoutez-moi une minute. Vous me devez bien ça, pour avoir choisi la méthode la plus dégueulasse.
Ralph ouvrit la porte, mais Samuels le retint par le bras, secoua la tête et, d'un mouvement de sourcil, montra la caméra installée dans le coin, avec sa petite lumière rouge. Ralph referma la porte et se retourna vers Terry, bras croisés. Il devinait que la riposte de Terry après cette arrestation en public allait faire mal, mais Samuels avait raison. Un suspect qui parle, c'est toujours mieux qu'un suspect qui la boucle jusqu'à l'arrivée de son avocat, car souvent une chose en entraîne une autre. Terry reprit.
Derek ne mesurait pas plus d'1m25 dans la Little League. Je l'ai revu depuis. En fait, j'ai même essayé de le recruter l'année dernière. Et il a pris au moins 15 centimètres. Il sera plus grand que vous quand il quittera le lycée, je parie.
Ralph attendit la suite.
C'était un poids-plume, dit Terry. Pourtant, il n'avait jamais peur quand il tenait la batte. Beaucoup ont la trouille, mais Derek, lui, ne se défilait pas. Même devant des gamins qui prenaient leur élan et lançaient la balle de toute leur force, n'importe où. Il en a reçu plusieurs, mais il n'a jamais abandonné.
C'était la vérité. Ralph avait vu les hématomes sur le corps de son fils, après les matchs, quand il ôtait sa tenue. Sur les fesses, la cuisse, le bras, l'épaule. Un jour, il était revenu avec un gros bleu sur la nuque. Ces marques rendaient Janet folle, et le casque que portait Derek ne suffisait pas à la rassurer. Chaque fois qu'il se mettait en position, elle pinçait le bras de Ralph jusqu'au sang, de peur que son fils reçoive une balle entre les deux yeux et se retrouve dans le coma. Ralph lui assurait que cela n'arriverait pas. Mais il avait été presque aussi soulagé que son épouse quand Derek avait décidé que le tennis lui correspondait davantage finalement. Les balles étaient moins dures. Terry se pencha en avant, un léger sourire aux lèvres.
Généralement, un gamin aussi petit provoque un tas de buts sur balle. À vrai dire, c'était un peu ce que j'espérais ce soir en laissant Trevor Michaels tenir la batte. Mais Derek, lui, refusait de s'avouer vaincu. Il tentait de frapper quasiment toutes les balles, à l'intérieur, à l'extérieur, au-dessus de sa tête, à ras de terre. Les autres joueurs ont commencé à le surnommer Whiffer Anderson, Anderson le frappeur. Puis l'un d'eux a transformé le nom en Swiffer, comme une serpillière, et ça lui est resté, pendant quelque temps du moins.
« Très intéressant, » dit Samuels. « Mais si on parlait de Frank Peterson plutôt ?»
Les yeux de Terry restèrent fixés sur Ralph.
Pour faire bref, quand j'ai vu qu'il refusait de laisser passer les balles fautes, je lui ai appris à faire des bunts. À cet âge, 10 ou 11 ans, beaucoup de garçons ne veulent pas le faire. Ils comprennent l'idée, mais ils n'aiment pas baisser leur batte. Surtout face à un adversaire qui envoie du lourd. Ils se disent qu'ils vont avoir mal si la balle leur écrase les doigts. Mais pas Derek. Il avait du cran à revendre, ce gamin. Et puis, il savait filer comme une flèche le long de la ligne. Très souvent, alors que je l'envoyais au sacrifice, il réussissait un coup sûr.
Ralph demeura impassible. Aucun hochement de tête, aucun signe indiquant qu'il prêtait attention à ses paroles. Mais il savait de quoi parlait Terry. Il avait copieusement applaudi ses bunts. Il avait vu son fils survoler le terrain comme s'il avait le feu au derrière.
Il suffisait de lui apprendre les bons angles pour frapper, ajouta Terry en levant les mains pour faire une démonstration.
Elles étaient encore couvertes de terre. Sans doute avait-il participé à l'entraînement avant le match de ce soir.
Batte vers la gauche, la balle file le long de la ligne de la troisième base. Batte vers la droite, ligne de première base. Inutile de donner un grand coup, la plupart du temps, ça sert juste à envoyer une balle en hauteur, facile à rattraper par le lanceur. En fait, il suffit d'un petit coup de poignet à la toute dernière seconde. Derek a vite pigé. Les autres ont arrêté de l'appeler Swiffer et ils lui ont donné un autre surnom. Ce jour-là, on avait un coureur sur la première et la troisième, à la fin de la partie. Et les gars d'en face savaient qu'il allait tenter un truc impossible de ruser. Il a baissé la batte dès que le lanceur a pris son élan et tous les gamins sur le banc se sont mis à brailler. À fond, Derek, à fond! Gavin et moi aussi. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appelé durant toute la dernière année, quand on a remporté le championnat du district. À fond, Anderson. Vous le saviez?
Ralph l'ignorait. Peut-être parce que c'était strictement un truc entre joueurs. En revanche, il savait que Derek avait beaucoup grandi cet été-là. Il riait davantage. Il voulait rester après les matchs, au lieu de remonter en voiture directement, tête basse, laissant pendouiller son gant.
Il y est parvenu tout seul. Il s'est entraîné comme un dingue jusqu'à ce qu'il y arrive, dit Terry. Mais c'est moi qui l'ai motivé.
Après une pause, il ajouta tout bas.
Et vous m'avez fait ce coup-là, devant tout le monde. Vous m'avez fait ce coup-là.
Ralph sentit ses joues s'enflammer. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais déjà Samuels l'entraînait dans le couloir. Le procureur s'arrêta, juste le temps de lancer par-dessus son épaule.
« Ce n'est pas Ralph qui vous a fait ce coup-là, Maitland, ni moi. C'est vous-même. »
Lorsque les deux hommes se retrouvèrent de l'autre côté du miroir sans teint, Samuels demanda à Ralph si ça allait.
« Oui, » répondit l'inspecteur, qui avait toujours les joues en feu.
« Certains ont le don de vous rendre dingue. Vous le savez bien, non ?»«
Oui.
Et vous savez que c'est lui le coupable, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais vu un dossier aussi solide. »
« C'est ce qui m'inquiète, » songea Ralph. « Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant si. Je sais que Samuels a raison pourtant, mais je n'y peux rien. »«
Vous avez remarqué ses mains ?» demanda Ralph. « Quand il nous a montré comment il avait appris à Derek à faire des buns, vous avez vu ses mains ?»«
Oui, et alors ?»«
Les ongles de ses auriculaires ne sont pas longs, aucun des deux. »
Samuels haussa les épaules.
« Il les a coupés. » « Vous êtes sûr que ça va ?»«
Oui, très bien. Simplement... »
La porte entre les bureaux et l'aile de détention bourdonna, puis s'ouvrit avec fracas. L'homme qui se précipita dans le couloir portait une tenue décontractée du samedi soir, jean délavé et t-shirt Texas Christian University, orné d'un lézard bondissant. Mais le gros attaché caisse qu'il tenait à la main faisait très avocat.
« Bonsoir, Bill, » dit-il. « Et bonsoir à vous, inspecteur Anderson. » « Voulez-vous bien m'expliquer, je vous prie, pourquoi vous avez arrêté l'homme de l'année 2005 à Flint City ? S'agit-il d'une simple erreur que nous pouvons peut-être gommer, ou bien êtes-vous devenu complètement cinglé ?»
Howard Gold venait d'arriver.